du Mali.
Studio Damani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et partout au Mali, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici les titres de cette matinale. Les observateurs et les partis politiques continuent de réclamer la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Un document de plaidoyer relatif à des réformes politiques, institutionnelles et électorales a été présenté ce week-end par l'Observatoire pour les élections. Les syndicats de la santé entament ce lundi une grève de 10 jours sur l'ensemble du territoire. Le personnel sanitaire réclame l'amélioration des conditions de travail en plus et plus de sécurité. Manifestation contre la hausse des prix de certaines denrées au Mali à l'appel du Front populaire contre la vie chère au Mali. Des populations de la commune 5 du district de Bamako ont manifesté samedi dernier pour exiger des autorités la baisse du prix de certains produits. Voilà pour les titres, le développement dans un instant avec Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali exige la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Au cours d'une rencontre samedi à la Maison de la Presse, l'organisation a présenté un document de plaidoyer des réformes politiques institutionnelles et électorales dans notre pays. Le document en question révèle de nombreux dysfonctionnements dans le code actuel, dans le code électoral actuel. Plus de détails avec Mouda Issoufi.
Il faut des réformes politiques institutionnelles et un organe unique pour une gestion optimale des élections. C'est ce que réclame Dr Ibrahima Sango, membre de l'Observatoire et la bonne gouvernance au Mali.
Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de transition et dans la charte de la transition, il est dit qu'il y a des réformes politiques institutionnelles qui ont une place importante avant l'organisation des élections. À notre sens, aujourd'hui, on doit aller d'abord à la création d'un organe unique et indépendant de gestion des élections et qui sera inscrit non seulement dans la Constitution, mais aussi dans la loi électorale. Et cet organe unique doit proclamer des résultats définitifs. Par rapport aussi à la Cour constitutionnelle, il faut relire la loi organique qui régit la Cour constitutionnelle.
Les crises post-électorales qu'a connues le Mali et les ruptures du système démocratique sont dues aux insuffisances de la loi électorale selon les observateurs électoraux. Ils demandent des réformes électorales profondes qui impliquent toutes les tendances politiques. Fousseyni Diop, responsable programme AGICAD Mali.
En quelques années d'indépendance seulement, nous avons connu à peu près 4 coups d'État. Donc, si les réformes majeures ne sont pas effectives au Mali, je pense qu'on pourra être appelé à connaître encore un coup d'État. La priorité majeure de la transition, c'est sécuriser le territoire du Mali et partir aux réformes réelles pour qu'on puisse organiser rapidement des élections libres, transparentes et participatives. Nous ne pouvons pas aussi faire des réformes sans les partis politiques. Ils doivent être associés à tous les processus.
En attendant la révision de la loi électorale au Mali, il faut rappeler que la transition ne dispose que de 13 mois et le chronogramme électoral détaillé demeure encore.
Vous avez la possibilité de réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les syndicats de la santé entament aujourd'hui un arrêt de travail de 10 jours sur l'ensemble du territoire. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment le paiement de certaines primes ainsi que la sécurité. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La hausse du prix de certaines denrées suscite la colère des consommateurs. C'est le cas du Front populaire contre la vie chère au Mali qui a organisé samedi dernier une manifestation au marché de Kalaban Bankoura, en commune 5 du district de Bamako. Il exige la baisse du prix de la viande, de l'huile et d'autres produits. Écoutons quelques réactions rassemblées par Maliki Diallo.
Nous voulons que les autorités fassent des contrôles dans les marchés afin que tous les prix soient les mêmes partout. C'est ce que nous voulons. On veut une vie moins chère, pas d'une vie chère.
On veut que tous les Maliens en fassent leur combat. Non, quand même, on ne va pas abandonner. On va continuer à se mobiliser et même à l'intérieur du pays. Ce n'est pas notre rôle ça, mais que faire?
On est fatigué et on en a marre. Nous demandons aux autorités de diminuer les prix. On a tout ici, les autres pays viennent se ravitailler aussi chez nous. Et c'est pas normal qu'on ait des produits plus chers que ces pays.
Non à la vie chère! Non à la vie chère!
8h04 à Kayes. La ville a désormais un deuxième pont. L'infrastructure et ses voies d'accès ont été inaugurées samedi 27 février 2021 par le Premier ministre Mokhtar Ouane. Le coût de réalisation de ce pont est estimé à 58 milliards de francs CFA financés par l'État malien. La construction de ce pont a été un offre de soulagement pour la population de Kayes, mais aussi pour la plateforme des jeunes de Kayes. Celle-ci avait manifesté plusieurs fois pour demander ce second pont de Kayes. Nous retrouvons notre correspondant Mahamadou Samba Diallo.
L'inauguration de ce deuxième pont de Kayes est intervenue après plusieurs mouvements de contestation des jeunes de la région. Boubacar Niane, président de la plateforme des jeunes, qui est à l'origine de ces actions.
Nous sommes convaincus que la jeunesse kayesienne est plus que jamais déterminée à relever les grands défis pour poser les jalons d'un véritable développement de la région de Kayes. Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements aux plus hautes autorités pour la réalisation de ce pont pour servir le Mali entier.
Cette infrastructure va contribuer au développement général de la région de Kayes, a souligné Makan Fili Dabo, ministre de l'Équipement et des Infrastructures.
L'objectif global de ce projet est de contribuer au désenclavement intérieur-extérieur de notre pays, à assurer une liaison pérenne entre Bamako et le port de Dakar, à contribuer au renforcement de l'intégration économique et la coopération sous-régionale, à favoriser le développement de la recherche et l'extraction des ressources minières dans la région, à renforcer les échanges commerciaux, à améliorer la fluidité du trafic.
Le premier ministre Mokhtar Ouane, qui a procédé à l'inauguration du pont, a appelé les populations de Kayes à prendre des soins de ces joyaux. Pour lui, il est une richesse pour tous les Mali. Kayes, Mahamadou Samba Diallo pour Studio Tamani.
De Kayes, nous nous rendons à Gao, c'est dans le nord du pays, dans le quartier Sosokoira de Gao. Le corps sans vie d'un garçon d'environ 2 ans a été retrouvé samedi soir derrière la station régionale de l'ORTM Gao. Selon les autorités communales, l'enfant est sorti du domicile vers 17h. Après de longues heures de recherche, il a été retrouvé décapité dans un bâtiment inhabité. Les autorités communales se disent inquiètes et exigent des enquêtes concrètes. Écoutons Madame Touré Saïma Issa, troisième adjointe au maire de Gao, joint par Awa Berthe.
À Gao, quand il y a des problèmes comme ça, les enquêtes s'ouvrent mais ne se ferment jamais et n'amènent jamais un résultat positif. C'est ça le problème. Ça n'engage que moi. Moi, je dis que parce qu'il y a toutes sortes de personnes aujourd'hui qui sont là. Peut-être ils font ces enfants-là des sacrifices pour les orphelins-là qui sont sortis dans la région de Gao. Je ne sais pas. Hein. Mais ça, c'est aussi un nouveau phénomène qui vient de commencer à couper la tête des petits enfants. C'est regrettable, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, je lance un cri de cœur aux autorités vraiment d'être très vigilants, de prendre toutes les dispositions possibles pour sécuriser les populations et leurs biens. Et de trouver aussi ces bandits-là qui sont en train vraiment de nous meurtrir les cœurs et les âmes et chaque jour que Dieu fait.
Studio Tamani à Gao, c'est sur la radio Nata 91.7 FM. Sur un tout autre chapitre à présent, aujourd'hui lundi 1er mars, c'est la journée africaine de l'alimentation scolaire. C'est dans ce contexte que le programme alimentaire mondial PAM a visité vendredi dernier l'école de Tenezana, un village situé à 55 km de Bamako, dans la commune rurale du Nansombogo, cercle de Kolokani. Cette école est dotée d'une cantine scolaire. Les élèves, parents d'élèves, mais aussi les responsables scolaires témoignent que la cantine scolaire a permis d'accroître l'effectif et de diminuer la charge financière au niveau des familles. Notre reporter Aïssata Diarra était sur place. Voici son compte-rendu.
À midi, on mange à l'école ici. Des fois, on ne mange même plus à la maison. On apprécie beaucoup cette action. Et des jours où il n'y a pas école, on est même découragé. Nous voulons que ça continue.
Les enfants nous ont confié cela avec joie. Créée en 2015, cette cantine scolaire est soutenue par un site maraîcher et un champ communautaire dont une partie des cultures sert à préparer des repas nutritifs pour les enfants. Le nombre d'élèves a augmenté grâce à la cantine scolaire, affirme Abdoulaye Traoré, directeur de l'école de Tenezana.
Bien avant la cantine. L'effectif était alors à 196 élèves. Avec l'arrivée de la cantine en 2015, nous avons alors eu un effectif de 218 élèves. Actuellement, nous avons 264 élèves, dont 154 filles.
L'effort fourni par la communauté pour la pérennisation de cette action est salutaire, affirme Virgo Edgar, associé à la communication pour les PAM au Mali.
Nous pensons que notre objectif est pleinement atteint pour le cas de cette école. Ils ont compris l'importance des cantines scolaires pour l'éducation de leurs enfants et ils font de leur mieux pour que ces cantines puissent exister.
Les villageois et les responsables de la localité souhaitent la continuité de cette action car selon eux, la cantine scolaire contribue à rehausser l'économie du village.
Les activités du festival Agna ont pris fin hier dimanche à Koulikoro pour cette deuxième édition. Les festivaliers sont venus de Bamako, Tombouctou et Gao durant 4 jours. Plusieurs manifestations ont eu lieu sur les berges du fleuve Niger et à l'espace Vision Niger de Koulikoro. Il s'agit notamment des concerts, des projections de films, des ateliers de formation et des rencontres professionnelles. Cette édition intervient dans un contexte de la maladie à coronavirus. À la date d'hier dimanche 28 février, les autorités sanitaires ont enregistré 11 nouveaux cas de COVID-19, 0 patient guéri et 1 décès. La situation cumulée est de 8376 cas enregistrés, 6402 guéris et 363 décès. C'est ce qui nous conduit à votre rubrique Actu COVID présentée ce matin par Elisabeth Wallet.
Le décès d'une femme enceinte suite au traitement de la COVID-19 suscite de polémiques à Bamako. Les faits remontent à la première vague de la COVID-19. Selon le conjoint de la défunte, son épouse avait des pathologies respiratoires et n'avait pas le coronavirus. Toutefois, les médecins soutiennent le contraire et affirment que la dame a été testée positive à la maladie. Suivons ce reportage de Moussa Malé Sissoko avec la voix de Khalifa Goïta.
Karim Koulibaly, l'époux de la défunte Aminata Fofana, est catégorique. Ma femme ne souffrait pas de COVID-19. Selon lui, sa femme enceinte de 8 mois souffrait de complications respiratoires. Il reproche au médecin un mauvais traitement de la maladie de sa femme qui a entraîné sa mort.
À partir des résultats qu'ils nous ont donnés, on se rend compte qu'elle n'avait pas de COVID. On lui a donné plus de 20 comprimés de chloroquine qui ne sont même pas conseillés pour une femme enceinte. Depuis qu'elle a pris ces médicaments, les complications ont commencé. Maintenant, le problème est que les parents sont là. Son papa même est malade. C'était elle qui le soignait avec sa carte amour. On n'arrive plus à assurer les médicaments de son père. Depuis qu'elle est décédée, aucun médecin n'est venu nous voir.
Les médecins refutent ces accusations. Ils estiment que Aminata, en plus de la COVID-19, souffrait d'autres pathologies. Toutefois, ils insistent que la prise en charge de la patiente a été faite par les médecins.
C'était la première femme enceinte atteinte de COVID que le centre a géré. Pendant l'hospitalisation, elle avait d'autres complications. On était au chevet de cette dame. Tout ce que je suis en train de vous le dire, c'est avec des preuves. Le dossier physique, il est là. Les bilans sont là et on peut sortir toutes les dates. Si le monsieur a d'autres problèmes, il peut toujours porter plainte. Nous, on n'a rien à cacher.
Le ministère de la Santé estime ne pas être au courant des faits. Toutefois, ses responsables rassurent s'informer et prendre des mesures.
Suivons maintenant la question d'auditeur du jour. Elle est répondue par professeur Yakuba Toloba. Il est le responsable du deuxième centre de traitement de COVID-19 à l'hôpital du Point G.
Allô docteur, est-ce que baigner dans une piscine ou au fleuve peut être un facteur de contamination au coronavirus?
Une chose est sûre, la maladie est contaminée plus en interhumain et par voie aérienne. Il n'a pas été décrit que celui qui baigne va laisser son virus dans l'eau et puis l'autre vient se contaminer dans l'eau. Je ne peux pas vous donner des explications plausibles à ce stade.
Ainsi prend fin l'actu COVID d'aujourd'hui. Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Plus de 200 personnes, dont des femmes et des jeunes, ont pris part ce dimanche à la pose de la dalle de compression de la grande mosquée de Kita. Selon plusieurs sources sur place, ces travaux de réhabilitation de la mosquée ont été rendus possibles grâce à l'initiative d'Abdoulaye Konaté Diboulaye, un fils de la localité. Et c'est ce qui met fin à ce journal présenté par Sekou Gadjigo à la mise en onde Gagny Kanté. Vous pouvez réécouter cette édition sur notre site www.studiotamani.org ou en appelant au 37 320. Merci de l'avoir suivi.